Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap avec Didier Rigal. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors j'ai le plaisir d'être reçu, c'est pas moi qui reçois aujourd'hui, hein. D'habitude ça se passe en studio, mais là non, je suis reçu dans la demeure d'un homme qui travaille dans le passé, on peut le dire comme ça, qui vit quotidiennement dans la familiarité de nos lointains ancêtres, qui contribue à mieux nous les faire connaître, qui nous enseigne ce que sont nos racines sans lesquelles on ne saurait se construire. Il est archéologue. Bonjour Didier Rigal.
Bonjour.
Alors Didier Rigal, Lotois, et on est dans le Lot justement, comment ça s'est passé? Comment vous êtes venu à l'archéologie? Parce qu'on a préparé l'émission, j'ai vu ce que vous m'avez écrit, alors, j'ai vu CFP Douai, je ne sais absolument pas ce que c'est que le CFP.
Alors, c'est le centre de formation au patrimoine qui était au départ lancé sur Dijon, en Bourgogne, et ensuite en raison des grands travaux du TGV Nord qui a nécessité l'embauche de la formation rapide de nombreux archéologues, le site a été décentré à Douai dans le Nord et a été accueilli par les services municipaux, et c'est là que j'ai fait mes premières armes en archéologie.
Et après Paris, le HESS, traduction...
École des hautes études en sciences sociales.
En sciences sociales, donc une école tout à fait prestigieuse. Et ensuite, bien sûr, l'entrée dans le métier. Qu'est-ce qu'on apprend à l'EHESS?
Alors, c'était assez particulier. C'est une des plus anciennes écoles françaises où l'admission se fait sur entretien, sans aucun critère de diplôme, de nationalité, de quoi que ce soit.
C'est rare, hein, oui. C'est une des rares écoles françaises. On adore les diplômes, chez nous, les papiers.
Et ça, c'était mon souci, parce que moi, j'étais pas très, très motivé à l'école. J'ai jamais trouvé ma place, donc je n'ai eu qu'une hâte, c'est de quitter l'école au plus vite, ou plutôt, donc évidemment, sans diplôme. Et quand j'ai voulu me lancer dans l'archéologie, il a fallu que je me forme, que je reprenne les cours à l'école et que je me forme réellement. Et pour moi, l'école de hautes études, c'était la formation idéale parce que j'ai été sous la tutelle d'un directeur d'études qui était Jean Andreau, qui est un historien de l'économie antique et qui me suivait de loin loin. Et parallèlement, moi, je travaillais. Je faisais en même temps une formation de guide conférencier, je prenais aussi des cours au Mirail à Toulouse et je travaillais aussi en contrat CDD à l'époque en archéologie, donc j'avais plein de casquettes et j'ai pu me réaliser un mémoire de fin d'études qui portait sur la queue du Gros Main, et là ça a été une grande joie parce que j'ai pu mener à bien ce travail-là. Alors, c'était un petit peu compliqué parce que je me sentais parfois un peu seul au monde parce que mon directeur d'études il était à Paris. Moi, je travaillais concrètement dans le Lot et tout ça était parfois un peu compliqué.
Vous n'avez jamais eu envie de quitter le Lot?
Alors si, bien pour faire ma formation, oui. Déjà dans ma vie précédente, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, donc j'ai travaillé sur la Côte d'Azur, à Paris, un peu partout. Donc là, ce n'était pas un problème pour moi de quitter le Lot. Mais j'ai toujours une grande joie d'y revenir. Hein. Et pour l'archéologie, c'est pareil. Pour la formation, je suis parti pendant 2 ans à Douai dans le Nord. Et le temps de la formation, des premiers contrats que j'ai eus en archéologie à l'époque m'ont amené à travailler dans tout le département du Nord, également dans le Pas-de-Calais, la Picardie. J'étais très heureux comme ça. Hein. Ça me convenait très bien. Hein. Et d'ailleurs, j'ai dû réfléchir fortement sur quant à la possibilité de continuer ma carrière dans le Nord où je m'étais bien installé, je me régalais, j'appréciais beaucoup la mentalité, la qualité du travail qui était mené, ou revenir dans le Lot, où là, on était un petit peu en retard du point de vue archéologique. Le Lot, c'était la préhistoire, la préhistoire, la préhistoire. Il n'existait pas grand-chose d'autre. Et pourtant, on est dans les années, début des années 90, c'est pas vieux. Hein. Et ça a été assez difficile de faire ce choix. Mais je ne regrette pas, évidemment. Très heureux d'être ici.
Alors, qu'est-ce que c'est un archéologue, finalement? Comment alors, définir l'archéologie et ce métier?
L'archéologue, c'est un métier qui a beaucoup évolué. On a toujours l'image d'un... évidemment, surtout pas Indiana Jones, ça c'est, c'est surtout pas ça. Pas de fouet, pas de fusil, pas de chasse au trésor. Mais on a souvent l'image du vieux professeur au fond de son université ou du prêtre, du curé, de l'instituteur qui s'intéresse à l'archéologie. Qui a fait une activité qui réalise souvent le week-end parce que c'était pas un vrai métier finalement.
Il y a beaucoup de curés, quand on regarde un peu, qui ont écrit là-dessus. Les curés avaient le temps de fouiller, de chercher.
Ils étaient également intéressés par le patrimoine, par la recherche de nos racines. Mais également les instituteurs qui étaient. C'est vrai que ces deux personnages cohabitaient très régulièrement.
Et donc, à quoi ça sert, d'autres questions aujourd'hui, à quoi sert un archéologue?
Alors, certains considéreront que c'est pas vital, on peut s'en passer, on peut vivre sans archéologie. Mais c'est
oui, on peut vivre sans musique, on peut vivre sans
livre, sans plein de choses.
Bon, hein. Je ne dirais pas ce que je pense d'une telle vie, mais vous pouvez l'imaginer.
Et c'est une façon de connaître notre passé, de savoir d'où on vient. Et si on a la sagesse de regarder notre passé, ça peut nous éviter de faire parfois des bêtises dans les temps qui viennent, quoi. Malheureusement, on a souvent l'impression qu'on n'apprend rien du passé, mais pourtant, il suffit de se retourner pour s'en rendre compte que certaines situations nous abandonner et qu'on pourrait les éviter.
Quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser un peu à ce qu'il y avait sous la terre au passé? C'est la découverte de Pompéi qui a un peu lancé le mouvement?
Alors, ça a créé là, une grande mode de l'archéologie, plutôt de la recherche des antiquités. En fait, Pompéi, c'était la redécouverte de ce site formidable. C'était surtout l'occasion de rechercher de beaux objets, des statues, des monnaies, des machins. On est dans le 16e, c'est ça, oui. Après, ça a beaucoup évolué avec la présence française, notamment Murat, l'épouse de Murat, qui était passionnée d'archéologie.
Murat, qui n'est pas très... Voilà, c'est notre voisin, qui n'est pas très loin de là où nous sommes aujourd'hui. Hein.
C'est vrai. Et ça a créé un engouement très important pour, au moins pour les antiquités romaines. Évidemment, ensuite, il y a eu la campagne d'Égypte de Bonaparte qui a créé... Voilà, et puis les hiéroglyphes et Champollion qui ont suscité un intérêt très fort pour l'égyptologie. Et l'archéologie, finalement, ça a commencé plus anciennement que ça. Déjà, à l'époque romaine, il y avait des chercheurs d'antiquité qui ont collectionné les œuvres grecques, les œuvres, par exemple. On s'intéressait déjà à l'archéologie, mais c'était toujours la recherche du bel objet. C'était ça qui nous intéressait. Et c'est finalement une période relativement récente, du 18e, 19e siècle. Là, on s'est soucié de mettre en relation l'homme du passé avec la culture qui l'associait. Du coup, ça a créé une démarche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus globale. Et aujourd'hui, on est des héritiers de ce passé. Et quand on étudie un site, on va s'intéresser à tous les éléments qui vont faire le quotidien des gens qui nous ont précédés. Donc on va s'intéresser aux objets les plus fugaces. On collecte aussi bien les monnaies que les restes, que les fragments d'eau, que les fragments de céramique. Et on ne va pas se focaliser sur une période donnée. On ne va pas rechercher que les beaux objets. On s'intéresse à la globalité. C'est ça qui fait sens. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'évolution sur un même site de plusieurs centaines d'années où les gens se sont succédés. Ça, c'est ça qui est passionnant, en fait.
La Terre, c'est un bon conservateur?
C'est très inégal. C'est très terriblement inégal. Le meilleur conservateur, c'est certainement la mer. Là, dans l'eau, c'est fabuleux. On va conserver des objets en bois, on va conserver des tas de choses.
Sauf quand on le sort.
Et
là,
oui,
il faut
par
soigner
contre,
la sortie.
Oui, quand on les prélève, quand on les met à la lumière, évidemment, là, il y a lieu de prendre des mesures de conservation très rapides, sinon, c'est la disparition très rapide. Et tous les milieux anaérobies sont de très bons conservateurs d'objets. Donc le sable, les milieux secs, l'eau, la glace. Vous retrouvez des mammouths dans la glace dont on essaie de rechercher l'ADN plusieurs milliers d'années après leur disparition. C'est formidable, c'est extraordinaire. Il faut un milieu anaérobie où on n'ait pas de modification une fois humide, une fois sec, une fois la lumière, une fois enterré. Et c'est effectivement nos gros problèmes que l'on a dans les fouilles continentales. On va retrouver uniquement une certaine catégorie d'objets, les objets en pierre, les objets en fer, les céramiques. Par contre, on va passer à côté de tout ce qui est objets en bois, qui sont pourtant très nombreux. On ne retrouve pas non plus le cuir, on ne retrouve pas des tas d'éléments qui sont très problématiques quant à la connaissance d'un site.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui est intéressé par ce métier? D'abord, est-ce que vous lui direz oui, on peut faire ce métier, on peut y trouver plaisir, satisfaction intellectuelle et puis en vivre aussi, parce que c'est quand même un peu le but de métier. Vous lui conseilleriez à un jeune d'aller dans cette voie aujourd'hui?
Oui, bien sûr, s'il est réellement motivé, s'il y croit vraiment, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, évidemment. Moi, quand j'ai commencé ma formation, on nous avait dit. On était une session de 24-25, on nous avait dit, bon, vous serez il y a 2-3 parmi vous qui vont sûrement pouvoir travailler un petit peu en archéologie, mais prévoyez de faire autre chose pendant 8 mois de l'année. Et moi, ça, aucun problème, moi ça ne me dérangeait pas. Je disais, mais chic, je vais faire de l'archéologie 3 mois par an, c'est génial. Et je reviendrai à mon ancien métier le reste de l'année, ça m'allait très bien. Et puis petit à petit, j'en fais mon métier à plein temps.
Ça veut dire qu'il y a quand même des débouchés.
Oui, il y a des débouchés. Alors, on n'a jamais eu autant de budget pour l'archéologie, on n'a jamais été aussi nombreux en personnel, mais il n'y a jamais eu autant de demandes. Donc évidemment, c'est un métier qui est relativement fermé, bien évidemment. Ça veut dire que pour réussir, il faut y croire très très fort et se bagarrer. Il y croira, vraiment.
Oui, c'est un peu préparé dans tous les métiers aujourd'hui. Hein. Il faut bagarrer, il faut travailler, il faut. C'est dur, dur aujourd'hui de faire le coup parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde et peut-être moins d'argent qu'il y en a eu. Ou en tout cas, pas moins d'argent qu'il y en a eu, mais il n'est pas dirigé de la même façon et aux mêmes endroits, peut-être.
On a beaucoup plus de moyens aujourd'hui en archéologie. En somme globale, on est beaucoup plus riche qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans. Je ne sais pas, Sophie, si cet argent-là est toujours employé avec la plus grande intelligence et avec le plus de bon sens.
Oui, là, on s'avance sur un terrain qui nous occuperait certainement pendant des heures. Où est-ce qu'il faut aller pour apprendre l'archéologie? Université, il y a des écoles particulières
Le parcours idéal, c'est effectivement l'université. Localement, on a l'université du Mirail Jean Jaurès maintenant à Toulouse qui forme des métiers d'archéologie. Il y a Montpellier qui a une très très bonne réputation également, Bordeaux aussi. Donc les formations, elles sont très nombreuses. Hein. Moi, je suis d'une génération, nous sommes nombreux à avoir eu un parcours complètement atypique. Moi, je suis venu à l'archéologie à 30 ans. Aujourd'hui, ça devient. C'est pas impossible, mais ça devient quand même terriblement compliqué. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans le milieu, sans le savoir, à une époque, dans les années 90, où on avait besoin de beaucoup de monde. Donc, ça rendait les choses plus simples qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de diplôme, s'il n'y a pas une formation initiale, ça va devenir terriblement compliqué.
Il y a des spécialisations dans l'archéologie, j'imagine, hein, puisque maintenant la pluridisciplinarité est partout.
Bien sûr.
Et les progrès des techniques et des sciences font que, j'imagine que sur un chantier de fouilles, il faut plusieurs archéologues, mais de formations différentes, ou moins de spécialités différentes.
Bien sûr. Et voilà, ça me permet de rebondir sur votre question précédente, où vous me demandiez quelle était l'image de l'archéologue des années 1900. C'était effectivement un monsieur avec une bichette des lunettes qui savait tout faire. Il savait lire, déchiffrer le latin, il savait déchiffrer l'hiéroglyphe, il était compétent en géologie, en étude de la céramique. Il était omniscient. Ça n'existe plus, c'est plus possible. Si vous rencontrez un jour un archéologue qui vous dit qu'il est compétent, qu'il va gérer la partie géologique, l'étude du mobilier et je ne sais quoi d'autre sur le chantier, ça, il y a un problème, il y a un souci, c'est pas bon. Moi, par exemple, sur la fouille de l'aqueduc, on parlera peut-être tout à l'heure, l'aqueduc Cahors, il y a une équipe de 25 chercheurs de spécialités différentes qui ont collaboré à cette étude. Et moi, j'ai été simplement le coordonnateur de cette équipe pluridisciplinaire. Moi, ma compétence, c'est d'aller chercher les bonnes personnes ressources là où elles sont. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait plus un chantier seul. C'est pas possible. Et moi, j'ai des dizaines de collègues qui ont à l'INRAP, à l'Institut national de recherche archéologique de qui je dépends, nous sommes, il y a des centaines de chercheurs qui ont des spécialités différentes. Quand ils n'existent pas, on va les chercher ailleurs, dans des universités, dans des laboratoires de recherche. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces sciences annexes. Et on en invente régulièrement.
Les techniques ont terriblement évolué, apparemment. Ça vous aide beaucoup? Ça vous permet d'aller plus vite, de mieux connaître ou pas?
Alors, avec la professionnalisation, nous sommes rentrés depuis les années 90, nous sommes rentrés dans un stade où nous sommes intégrés dans la chaîne opératoire du chantier. Ça veut dire que nous intervenons au même titre que plusieurs autres intervenants. On est parmi les premiers, évidemment, et on a un cahier des charges à respecter, on a un budget à respecter, et fort de ce cahier des charges, on doit faire pour le mieux avec les moyens qui nous sont donnés. Évidemment, si vous me posez la question, on aimerait toujours avoir un peu plus de moyens, un peu plus de temps.
Tout le monde.
Et évidemment, c'est facile. Mais du coup, on a appris à mécaniser les fouilles. Ça veut dire que ce qu'on faisait auparavant à la pelle et la pioche, parfois, c'est toujours utile, la pelle et la pioche et la brouette, hein, on s'en sert tous les jours. Hein. Mais à certains moments, il faut utiliser la pelle mécanique parce que c'est plus rapide et pourtant, ça ne nous fait pas perdre d'informations. Il faut savoir aller à l'essentiel et on doit faire des choix tout le temps sur un chantier où vous devez faire des choix tous les jours. Impossible de tout passer au tamis, de tout fouiller au pinceau, comme on le voit à la télé, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. On doit libérer les lieux à une date donnée et il faut savoir à quel moment il faut mécaniser, donc les grosses pelles mécaniques et puis la plus petite pelle mécanique, ensuite la pelle de la pioche, la truelle, et tout ça pour nous permettre de tirer la quintessence du site dont on nous a confié l'étude dans les délais que l'on est censé respecter.
Il y a différentes écoles en archéologie, où, quand je dis école, j'entends approche.
Je dirais qu'il y a deux catégories d'archéologues. Il y a les préhistoriens et les historiens. Les préhistoriens vont travailler sur des périodes terriblement anciennes pour lesquelles le plus petit artefact va avoir une importance capitale. Donc eux, effectivement, ils vont utiliser beaucoup plus le pinceau que moi parce que les vestiges sont beaucoup plus ténus, sont beaucoup plus anciens et c'est beaucoup plus difficile. Pour les gens qui travaillent sur les périodes historiques, donc en gros, depuis le Gallo-Romain, Moyen-Âge et époque moderne, on utilise des méthodes qui sont extrêmement proches. Finalement, il n'y a que les spécialistes à qui on va confier les éléments oubliés, notamment la céramique, qui vont être différents selon la période à laquelle on est concerné. Autrement, l'approche, elle est la même. Tout le monde est d'accord sur le principe qu'il faut respecter une fouille stratigraphique. Ça veut dire qu'on doit, quand on fait un trou, on ne cherche pas l'objet, mais on doit repérer les objets dans différentes couches stratigraphiques qui se superposent les unes par rapport aux autres. Et ça, ce serait facile, mais très souvent, ces couches-là, elles se recoupent les unes des autres. C'est-à-dire que quand vous creusez la fondation de mur, quand vous creusez un fossé ou une fosse, vous allez faire un trou qui va... Nos anciens ont fait un trou qui est passé à travers plusieurs couches. Donc, on a un millefeuille qui se superpose. Et notre mission, ça consiste à identifier ces différentes couches stratigraphiques et de leur attribuer une fonction et une datation en fonction de l'objet, l'ossement, le tesson de céramique qu'on va trouver dedans.
Et puis si l'objet n'est pas trop en état, on l'envoie à l'hôpital des Antiquités, donc c'est une occasion de faire un bonjour à Monique Drieux, que vous connaissez, hein, qui dirige à Toulouse un laboratoire de restauration et qui va démarrer dans quelques jours des émissions sur l'histoire de l'art sur Esprit Occitanie, donc voilà, j'ai l'occasion de faire une émission avec elle et d'aller visiter ce laboratoire et de voir un peu travailler sur les spécialistes du fer pour ce qui la concerne. C'est quand même voir une antiquité qui remonte à plusieurs siècles là, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant.
Et oui, le travail de Dominique Drieux, son laboratoire Metaviva, est capital pour nous, parce que quand nous découvrons des objets en fer, ils sont évidemment terriblement corrodés, et si on se contentait de les observer comme ça, sans traitement, on est incapable de dire quoi que ce soit. Il y a lieu de faire des traitements de conservation, des radiographies, éventuellement stabilisation ou de la restauration quand l'objet va être présenté. Et effectivement, et ce travail-là, il est pour nous indispensable, sans quoi on serait incapable, la plupart du temps, d'identifier la nature même de l'objet qu'on trouve, quoi.
Est-ce que le fait de vivre avec un pied dans une autre civilisation, dans plusieurs civilisations, mais de toute façon anciennes, est-ce que ça vous donne un point de vue particulier par rapport à la civilisation que nous vivons, nous, aujourd'hui ? Est-ce que ça a modifié votre vision de notre planète, des hommes qui y sont, de ce qu'ils y font ?
Je crois que ça donne un certain recul. Oui, vous avez raison. On ne peut pas passer son temps à cohabiter avec les ancêtres d'il y a 2000 ans ou d'il y a 500 ans sans se mettre un petit peu dans leur peau, et de temps en temps forcément on se demande de quelle période on vit, et parce qu'on est on essaie de s'approcher au plus près d'eux, de rechercher. On est témoin des difficultés de leur vie. Quand on fouille des nécropoles, par exemple, des cimetières, on va pouvoir observer des pathologies sur des enfants, sur des gens, sur des adultes. On voit que les enfants ont travaillé très jeunes, ça a modifié le squelette. On voit aussi des altérations dues à la maladie, dues aux blessures, au combat ou au travail, tout simplement. Et c'est vrai que moi, pour ma part en tout cas, j'ai une certaine empathie pour ces vestiges-là, ces témoins-là, parce qu'on est les premiers à les rendre à la lumière des siècles après leur enfouissement, et il y a quelque chose quand même de très... il y a du détachement quand même, mais il faut du détachement, mais quand même ça... quand vous observez ces pathologies ou voilà, des enfants en bas âge qui ont été qui sont décédés, ça laisse quelque chose, quoi. Il faut que ça laisse quelque chose. Si on était totalement blasé, je pense que ce serait assez dommage, quoi. Et du coup, c'est un problème pour l'archéologie. C'est vrai que nous on n'est pas tous d'accord sur la façon de traiter les restes humains. Pour ma part, je considère que c'est un objet d'étude extrêmement important, parce qu'ils vont nous enseigner énormément de choses sur une période, sur une civilisation, sur un lieu de vie, mais pour autant ce n'est pas le même objet inerte qu'un tesson de potoki ou qu'un clou ou qu'une pièce de monnaie, quoi. Il y a quand même quelque chose de particulier.
Un mot peut-être rapide, et après on écoutera un peu de musique pour souffler, si je puis dire. Les restitutions au pays que l'on a, je n'ose pas dire pillé, mais enfin bon, cette politique de restitution, je la pose chaque fois que j'interviewe un archéologue. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce qu'il faut rendre ce qu'on a trouvé ailleurs ? Est-ce qu'il faut le conserver, le garder chez nous ? On sait que les frises du Parthénon sont à Londres, on sait que nous avons beaucoup de pièces africaines. Le président Macron en a restitué quelques-unes, je ne sais plus, c'était au Mali, non, c'était pas au Mali, qui n'est pas d'ailleurs en état de les conserver, c'était au Bénin. Voilà, nous avons restitué quelques petites choses au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'il faut restituer ou qu'il faut garder chez nous ?
Si je gêne, je pense qu'on pense tous au musée du Louvre, évidemment. Moi, musée du Louvre, j'ai quand même tendance à le voir comme un musée de receleurs, finalement, qui a collecté
le mot est bienvenu, parce qu'au Louvre d'Abu Dhabi, ils ont quelques problèmes de recel, justement, mais c'est plutôt pénal qu'autre chose.
J'ignorais. Et moi, ça me dérange un petit peu de présenter des œuvres qui ont été ramenées par les différentes armées que l'on a envoyées hors des frontières, qui sont revenus avec ces éléments-là, moi, ça me pose un problème. À tout prendre, je préférerais que tous ces objets soient présentés de leur pays d'origine. Je préférerais de très loin. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi, vous avez cité les métopes du Parthénon, ils sont aujourd'hui au British Museum, ils sont parfaitement conservés, parfaitement mis en valeur. S'ils étaient restés sur place à Athènes...
Ah, les Athéniens savent quand même aujourd'hui ce que aujourd'hui, c'est que la conservation.
Aujourd'hui, c'est le problème, c'est qu'il y a également des problèmes énormes de pollution à Athènes. C'est une des villes les plus polluées du monde. Et ces éléments-là, s'ils étaient restés en place, seraient aujourd'hui en bien plus mauvais état qu'ils ne sont actuellement au British Museum. Pourtant, je ne peux pas créditer le fait que l'on ait pillé, parce que là, ça a été vraiment du vol. Quoi. On le sait, on connaît l'histoire, ça a été du vandalisme. Mais comme l'armée française a fait du vandalisme en pillant le musée, en pillant le palais d'été en Chine, en pillant aussi Rome, en pillant aussi l'Égypte, en pillant partout où on est passé, quoi. Moi, ça m'ennuie un peu. Je préférerais voir au musée du Louvre de l'archéologie française. Et voir en Italie ou voir en Égypte les œuvres qui sont issues de leur propre pays. Ça aurait, à mon avis, beaucoup plus de sens.
On fait une première pause musicale, Didier Rigard, c'est vous qui l'avez choisi. L'envie d'avoir envie, c'est Johnny Hallyday, c'est ça?
Exactement.
Pourquoi vous avez fait ce choix?
J'adore les paroles. Je trouve que les paroles, on devrait les écouter de très très sérieusement, ça dit quelque chose de notre époque pour moi. Je trouve qu'on vit bien en Europe, en France, on a beaucoup de chance. Malheureusement, je crois qu'on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens qui souffrent réellement sur Terre, qui nous envient beaucoup, et nous. Et nous, on a le tort de ne pas se montrer blasé. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais,
j'ai lu dernièrement dans un journal du soir que les Français se plaignaient la bouche pleine.
Oui, pour moi, c'est ça. Oui. Moi, je pense vraiment, oui.
Allez, on écoute Johnny Hallyday. On va écouter sérieusement les paroles.
Me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie, enfin. Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid, pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère, pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir.
Voilà, l'envie d'avoir envie par Johnny Hallyday, le choix de notre invité aujourd'hui est l'archéologue Didier Rigal. On a écouté avec soin les paroles. Alors revenons un peu au Lot, là où vous exercez. D'abord, vous êtes vous faites partie de l'INRAP, c'est ça ?
Exactement, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive.
Alors, l'archéologie préventive, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce qui peut être sauvé avant qu'on bétonne ?
Voilà, en gros, c'est ça. On a qualifié autrefois d'archéologie de sauvetage. Finalement, ça portait bien son nom, l'archéologie de sauvetage. Moi, ça ne me dérangeait pas. Voilà. Effectivement, notre mission principale consiste à étudier des sites, à les diagnostiquer ou à les fouiller avant qu'ils subissent des travaux, des aménagements qui vont porter atteinte à leur intégrité.
Donc, c'est pas un peu frustrant, ça, de se dire qu'on a un temps limité, des moyens limités, que de toute façon, on sait qu'on va passer à côté de beaucoup de choses. Et que ce sera perdu, surtout.
Oui, bien sûr. Tous les jours, on passe des centaines, des milliers de sites et disparaissent petit à petit sans qu'on les voit. L'archéologie préventive, ça a le gros avantage de libérer des moyens financiers qui permettent d'embaucher des archéologues, de faire des études. Et à titre d'exemple, sur le tracé de l'autoroute A20 dans le Lot, entre Montauban et Brive, on connaissait au départ un seul site qui était menacé par les travaux de construction d'autoroute, c'était l'aqueduc à hauteur de la Madeleine, parce qu'évidemment, l'aqueduc, lui, il part de la vallée du Vers à Cahors, l'autoroute, elle a un axe nord-sud, donc forcément, à un moment donné, ça allait s'entroiser. Et au départ, on connaissait un seul site, un seul. Et encore, l'aqueduc, à 1 kilomètre près, on ne savait pas où il était. On ne savait pas où il se trouvait. Au final, on a trouvé 100 sites. 100. Ça, c'est grâce à l'archéologie préventive. C'est grâce aux moyens qui ont été donnés, grâce aux équipes qui se sont impliquées, mobilisées sur le terrain, grâce à toutes les études
qu'on a réalisées. Mais est-ce qu'ils ont été bitumés, tous ces sites, par le passage de l'autoroute ?
Alors, et paradoxalement, l'aqueduc est le seul site à ne pas avoir été détruit par l'autoroute. Ça, c'est absolument incroyable. Il se trouve qu'à la Madeleine, je vous parle beaucoup de l'aqueduc parce que ça m'intéresse, il m'est très cher cet aqueduc. Il se trouve qu'à cet endroit-là, l'autoroute passe sur des remblais de 12 mètres de hauteur. Donc il était convenu avec les ASF, autoroute de la France, de ne pas fouiller les sites qui se trouvaient sous 4 mètres ou plus de remblais. Mais bon, j'ai beaucoup insisté, beaucoup pleuré pour qu'on puisse fouiller cet aqueduc. Et dans les moyens qui m'étaient donnés pour travailler sur une section qui se trouvait à côté, j'ai pu étudier le pont aqueduc avant qu'il ne soit recouvert. Pardon. Et donc pour moi, ça a été absolument formidable. Donc c'est
pont aqueduc. Aujourd'hui, il a disparu.
Non, il a disparu à la vue. Il a été découvert, on ne savait pas où il était, il a été étudié et de nouveau remblayé.
C'est pas un peu l'école de la frustration, ça, l'archéologie préventive ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si on est conscient que tous les jours, avec les cassages de cailloux, avec les bulldozers, avec tous les travaux d'aménagement que vous pouvez réaliser, je ne sais plus quel est le nombre d'hectares qui subissent les travaux d'aménagement tous les jours.
Beaucoup trop grand. L'artificialisation des sols est quand même un de nos gros problèmes aujourd'hui. Les bétonneurs, les maires bétonneurs sont légion. Et les promoteurs bétonneurs, les deux mots vont ensemble, sont également légion.
Et en fait, on va étudier un pourcentage infime de ces sites qui vont disparaître sous nos yeux.
Alors, c'est une donc on perd notre histoire.
Oui, oui, oui. On ne peut pas de toute façon tout fouiller. Ça demanderait un budget délirant. Il n'est pas certain du tout que les Français valideraient l'idée selon laquelle il faut entretenir 5000 archéologues pour fouiller tous les sites qui sont menacés par les travaux d'aménagement. Tout est affaire de compromis. Actuellement, à l'INRAP, nous sommes 2200 archéologues. Il y a encore un bon millier d'archéologues qui dépendent d'autres organismes publics ou privés. Donc c'est un équilibre qui paraît satisfaire un petit peu tout le monde. Évidemment, tous les jours, on assiste à des disparitions. Mais on considère, nous archéologues, que quand le site est fouillé, finalement, il a révélé sa teneur. On va pouvoir restituer sa connaissance. L'information n'est pas perdue. La pire des choses, c'est un site qui va être détruit petit à petit, régulièrement, par exemple, par les travaux agricoles, mais pas que. Et là, il n'y aura jamais d'opération archéologique parce que on considère que le site n'est pas détruit sauvagement d'un seul coup. Il est détruit petit à petit ou au long cours, si vous voulez, pendant 10 ans, pendant 50 ans. Et là, il n'y aura pas d'études et le site ne sera jamais connu finalement. Ça, c'est la pire des choses.
Quelle est votre spécialité? Vous avez une spécialité dans le temps, vous,
À l'origine, c'était le gallo-romain.
Oui, parce que je veux quand même, vous avez une liste assez impressionnante de publications, de rapports scientifiques, donc vous avez quand même beaucoup travaillé. On ne va pas tous les citer là, parce que ça nous prendrait quasiment l'heure si on devait en parler, même plus. Vous, vous êtes plutôt gallo-romain, c'est-à-dire quelle époque précisément?
Alors, puis c'est
fourchette.
J'ai travaillé plutôt sur, effectivement, sur l'époque gallo-romaine, plutôt le Haut Empire. Donc, on est entre 50 avant Jésus-Christ, entre Uxilodunum, moins 51 avant Jésus-Christ, à la chute de Rome en 476.
Ah ben, c'est large quand
c'est,
même.
C'est large quand même.
150 ans, ça vous laisse de quoi faire.
Mais par rapport aux historiens, c'est ridicule. C'est une période de 500 ans, c'est une plaisanterie. Quand vous parlez à un préhistorien qui travaille sur le paléolithique supérieur, là, oui, c'est un centaine de milliers d'années.
Oui, c'est ça fait un peu ridicule.
Ouais, c'est un peu ridicule à côté.
Oui, alors on en a des préhistoriens pas loin, parce qu'à quelques centaines de mètres, ou non, je sais pas, un peu plus, 400 km, nous avons la grotte de Pêche-Merle.
Bien sûr, elle est tout proche.
Qui est tout ouais. proche et sur laquelle on aura à reparler, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une émission sur Esprit Occitanie, puisque j'avais à l'époque fait avec Bertrand Defoe une émission au fond de la grotte avec les frontales. Ça m'avait tout à fait impressionné. Alors, comment ça se passe, une fouille? Parce que votre travail, c'est un travail de terrain. L'historien, il est dans ses papiers, dans ses archives, etc. Vous, certainement, il y a du travail de bureau, entre guillemets, mais c'est surtout sur le terrain que ça se passe. Alors vous arrivez, on vous dit, tiens là, comment? D'abord il faut identifier, ou alors on a découvert, en creusant, en travaillant, en fouillant pour tout à fait autre chose, on a découvert un site archéologique. Donc vous arrivez, qu'est-ce qui se passe?
Alors, le plus important c'est le terrain, vous l'avez bien dit. Malheureusement, on passe beaucoup trop de temps, beaucoup plus de temps en rédaction, en phase d'études. Et il y a aussi une des charges administratives qui sont un peu trop importantes à mon goût. Et malheureusement, moi, j'aimerais passer un peu plus de temps sur le terrain. Et alors, effectivement, il y a deux découvertes possibles, enfin, deux options possibles pour la découverte d'un site archéologique. C'est la découverte fortuite lors de travaux divers et variés, ou bien lorsqu'un projet est porté à la connaissance de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, là, la DRAC va décider éventuellement de demander une évaluation, un diagnostic. Donc, dans ces cas-là, on nous demande, sur un terrain donné, par exemple sur le projet de construction d'une maison, nous, on va intervenir, INRAP, on va participer une entreprise avec une pelle mécanique, on va lui faire faire des tranchées, de façon à hauteur de 10% généralement du terrain, jusqu'au terrain naturel, de façon à voir, dans la coupe du terrain qui a été réalisé, s'il y a présence ou absence d'archéologie. Parfois, il n'y a rien, ou il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien ou parce qu'on ne voit pas, ça peut arriver aussi. Et de temps en temps, heureusement, on trouve des choses. Donc les choses, ça peut être des objets isolés, ça peut être des murs, ça peut être des fosses, ça peut être des fossés, ça peut être ce que vous voulez. Et là, on va rédiger un rapport d'opération qu'on remet à la DRAC et qui va décider s'il y a nécessité de revenir mener une fouille d'ampleur ou si on s'arrête là. La plupart du temps, on s'arrête là, parce que les vestiges ne sont pas présents ou sont très mal conservés. Donc, on considère qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Ce n'est pas négatif, parce qu'on a la réponse sur un coin donné. Et mais quand on revient, effectivement, là, on va ouvrir en grand et on va fouiller la partie du site qui est menacée par les travaux d'aménagement.
Et un chantier de fouille, ça peut durer semaine, 15 jours, 2 mois, 3 mois?
Alors, le diagnostic, ça va d'une après-midi à quelques mois. Par exemple, sur le tracé d'autoroute A20, là, ça a duré quand même pas mal de temps, parce qu'il y avait 100 km au total. Donc là, on y a passé un petit moment. Et puis, pour les fouilles, bon, généralement, c'est rarement moins de 15 jours, mais ça peut durer jusqu'à un an. Moi, j'ai deux fouilles qui ont duré un an, à Toulouse, à Drac-Saint-Jean, oui. Et à Cahors, à l'hôpital, au parking Fénelon.
Alors là, vous êtes combien sur un chantier de fouille?
Ça va de 2 minimum jusqu'à, moi, ce qui me concerne, ça a été jusqu'à 25-28 personnes à Drac-Saint-Jean, à Toulouse et aux Allées Fénelon à Cahors.
qui sont de quelle origine? Ce ne sont pas tous des archéologues.
Oh, alors si, là je parle vraiment, ce sont vraiment tous des archéologues. Alors, la plupart du temps, ce sont des collègues de l'INRAP qui sont en contrat à durée déterminée, comme moi. Et il y a aussi des collègues de l'INRAP qui sont en contrat à CDD. Et puis, en plus de ces 28 personnes, j'essaie toujours d'accueillir des stagiaires qui sont des étudiants de l'université et qui ont besoin de se former sur le terrain. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que il y a un regard nouveau du 109, quoi. Ça fait aussi beaucoup de bien, quoi. Ils sont confrontés aux réalités du terrain. Voilà, ça change les cours universitaires.
Alors, comme votre territoire de prédilection et puis professionnel, c'est le Lot. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Lot?
Alors, ça a été le Lot pendant très longtemps. Et le département du Lot a créé un service départemental de l'archéologie auquel j'ai postulé. Malheureusement, je n'ai pas été, malheureusement pour eux, je crois, je n'ai pas été retenu.
Quelques amitiés particulières.
Oui, je crois qu'il y avait des amitiés particulières. Oui. Voilà, je crois que ça vient d'assez loin. Et donc, du coup, je travaille maintenant hors du Lot, un peu partout en France, jusqu'à La Réunion, en Guyane.
C'est pas désagréable.
Ça. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est
le gallo-romain en Guyane, c'est compliqué, non?
C'est plus rare. Il faut le chercher. On n'a pas encore trouvé.
Mais sur le Lot, spécifiquement, il y a quand même une grosse présence gallo-romaine. Vous parliez de cet aqueduc. Vous avez beaucoup travaillé, je crois, hein, sur l'aqueduc dont vous parliez tout à l'heure, celui qui est à Verse, notamment. L'aqueduc antique, non?
Absolument, j'ai travaillé.
Vous le faites visiter régulièrement, vous y revenez?
Oui, absolument, ouais. c'est mon bébé.
C'est votre bébé, voilà, oui, c'est ça.
J'ai travaillé pendant. En fait, c'est la DRAC m'avait demandé de faire un travail de recherche, d'état des lieux, parce qu'il y avait des problèmes de conservation à la fin des années 90. Et donc, du coup, j'avais fait mon mémoire universitaire, et puis j'ai fait une fouille programmée pendant 9 ans. La fouille programmée, à la différence de la fouille préventive que l'on a évoquée à l'instant, ce sont des fouilles archéologiques qui sont réalisées sur des sites qui ne sont pas menacés par les travaux d'aménagement. Donc, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on a du temps. Moi, j'ai travaillé pendant 9 ans à raison de 2 mois par an sur le terrain. L'inconvénient, c'est qu'on a moins de moyens, on a moins de budget. Donc, du coup, on travaille beaucoup avec les bénévoles. On est soi-même souvent bénévole quand on travaille sur ce type de site. Et là, c'est vraiment le monument, le site archéologique qui m'a le plus appris sur Cahors. Bien qu'il se promène dans la campagne, on a pu mettre en évidence des techniques de construction, des choix, des stratégies de tracé qui sont absolument extraordinaires. Et on était extrêmement surpris avec la DRAC de voir autant de choses différentes sur un aqueduc. On pensait que l'étude serait limitée à 2-3 ans, en raison de mois par an, et qu'on ferait en quelque sorte un copier-coller de ce qu'on aurait vu. Et finalement, les choses se sont avérées beaucoup plus complexes qu'on l'imaginait. Mais on a fait des découvertes absolument extraordinaires, notamment les captages. On a pu dater l'aqueduc. On a retrouvé 14 des 16 ouvrages d'art que l'on a étudiés en grande partie. Enfin, ça a été un travail gigantesque qui a mobilisé jusqu'à 200 bénévoles. Ça a été absolument passionnant.
Pourquoi fait-on des fouilles? Vous venez de dire qu'on va les faire sur plusieurs années, mais un mois par an. On entend souvent ça, où on reste 2-3 mois et puis on revient l'année suivante. Alors quand c'est en Égypte, vu la chaleur, vu les conditions, on peut le comprendre. Mais ici, pourquoi faire qu'un mois et pas faire, par exemple, 4, 5, 6 mois et tout boucler en une année?
Alors c'est la différence qu'on retrouve entre les fouilles préventives et les fouilles programmées. Les fouilles préventives, c'est la partie la plus professionnalisée de l'archéologie, si je peux dire. Ça veut dire qu'on va devoir, on est intégré dans le planning des différentes entreprises qui vont travailler sur l'autoroute ou sur le parking ou sur la construction de l'immeuble. Et donc là, on doit intervenir du lundi au vendredi, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, tout le temps. Et si ça doit durer un an, ça dure un an. Par contre, les fouilles programmées, là, c'est complètement différent. Il n'y a pas de menace d'aménagement sur le site sur lequel on s'intéresse. Du coup, on va pouvoir y travailler sur le long terme. Ça veut dire que ça nous donne du recul d'une année sur l'autre pour modifier éventuellement les stratégies de recherche. Et puis, comme on n'a pas beaucoup de budget, on travaille beaucoup avec les étudiants. Et souvent, soi-même, on est bénévole ou en partie bénévole. Du coup, voilà la raison pour laquelle on travaille essentiellement pendant l'été et pendant plutôt 3 semaines, un mois et demi par an.
Et les rapports avec la DRAC, donc, qui est une administration de la culture, sont bons, ce sont des gens qui sont compétents, ce sont des fonctionnaires d'État, sont compétents, ils vous encadrent bien. Enfin, peut-être que vous ne pouvez pas non plus me répondre en toute liberté, on va édulcorer, mais enfin, on sait que certains secteurs artistiques se plaignent quand même souvent de la DRAC. Je crois que c'est le professeur Regourd qui les a qualifiés de géomètres de la culture dans un livre excellent et que je recommande souvent qui s'appelle SOS Culture. Est-ce que c'est votre approche ou est-ce que vous préférez sortir le joker, ce que je peux comprendre?
Oh non, non, pas le joker, moi c'était pas moi, c'est pas mon genre. Non, j'ai, ça va souvent porter préjudice, mais j'ai toujours dit ce que j'avais sur le fond du cœur. Donc je vais pas, c'est pas à 2 ans de la retraite que je vais me calmer. Les rapports, ils sont très inégaux. Il y a à la DRAC, comme chez nous, à l'INRAP, des gens qui sont compétents, d'autres qui le sont moins, des gens qui sont motivés, d'autres qui le sont moins. Et effectivement, ça va influer très fortement sur les relations que l'on peut avoir. Et les choses sont compliquées ces dernières années. Si vous voulez, il y a encore une dizaine d'années, l'INRAP était... Nous sommes une entité du ministère de la Culture. Nous ne sommes pas fonctionnaires d'État, mais nous sommes assimilés fonctionnaires. Et nous avons été structurés pour répondre à la globalité des fouilles préventives en France, en métropole. Il y a une directive européenne qui a dit « Non, 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 Niette, pas de monopole. » Donc, du coup, on ouvre la concurrence. Et on se retrouve aujourd'hui confronté avec une concurrence qui émane à la fois de structures publiques, donc des services archéologiques qui dépendent de départements ou de collectivités, et également des entreprises privées. Sur le principe, moi je ne dénigre pas la qualité du travail qui est fait. Hein. Les gens, ils ont les mêmes formations, qu'ils soient dans le privé, dans le public, ou ça, ils travaillent avec on a le même cerveau, logiquement, tout le monde fait le même boulot. Quoi.
Qu'est-ce que le privé vient faire là? Quel est le but d'une entreprise privée? Parce qu'on sait que la culture, ça coûte de l'argent, et c'est souvent... On ne va pas dire que c'est à fond perdu, parce que ce serait stupide, mais comment le public, le privé, se rémunère sur un chantier de fouille?
Il fait payer, on fait payer un ménageur. Nous-mêmes, et même nous, INRAP, c'est là, je vous parlais de l'autoroute tout à l'heure, on a parlé du parking des effets de long, à chaque fois, c'est le donneur d'ordre qui va payer le coût de la fouille.
D'accord.
Donc les salaires, les déplacements, l'hébergement, les truelles et les analyses.
Alors est-ce que l'aménageur qui va creuser et va être, c'est le premier qui va découvrir quelque chose qui potentiellement pourrait être étudié, est-ce que sa tentation, on voit ça dans les films, hein. Est-ce qu'il ne va pas dire, allez, vous me recouvrez tout ça sur une couche de béton, puis vite, on passe à autre chose?
Alors, quand les choses sont bien faites, l'aménageur ne découvre pas le premier des vestiges. C'est nous. Parce que ça veut dire que la DRAC a demandé à ce que soit réalisé un diagnostic. Donc, ça veut dire que ce sont les archéologues de l'INRAP qui vont faire les premiers sondages, qui vont identifier les vestiges. Mais il n'empêche, il y a des découvertes fortuites dans tous les cas de figure où un diagnostic n'a pas eu lieu préalablement au début du travaux. Et là, l'aménageur a la responsabilité de signaler les découvertes au maire de la commune, qui doit en aviser le préfet du département, qui doit lui-même aviser le préfet de région, donc la DRAC. Et parfois, ça fonctionne.
Parfois, ça fonctionne. C'est pas gênant qu'il y ait cet éclatement avec une foultitude d'entités qui viennent...
Si, bien sûr, bien sûr.
D'autant que nous... Pas de centralisation. La centralisation n'a pas que des avantages, on le sait.
Si, c'est d'autant plus gênant que nous avons été, l'INRAP, nous avons été structurés pour répondre à tous les cas de figure. Donc, nous avons les personnels, nous avons les savoir-faire qui sont compétents pour répondre à tous les cas de figure, quelle que soit la chronologie, quel que soit le site en France. Et du coup, on se retrouve confronté effectivement à une concurrence qui est parfois... qui est parfois un peu sauvage.
Oui, mais qui est contre-productive, certainement, non?
Ah, bien sûr, évidemment. C'est totalement contre-productif. Et effectivement, les privés se doivent de ne pas se permettre de perdre de l'argent. Ça peut leur arriver de perdre de l'argent sur une fouille, ça peut arriver, mais s'ils le font trop souvent, c'est la faillite. Donc, ils sont évidemment motivés à plutôt gagner de l'argent, évidemment. Et c'est pas forcément compatible avec la qualité du travail que l'on attend d'un archéologue.
Nous avions prévu d'écouter Barbara dans son Göttingen, mais je crois qu'on l'écoutera une autre fois parce que vous êtes passionnant et on a encore beaucoup de choses à dire. Alors je vous propose de mettre entre parenthèses Barbara, on y reviendra certainement un jour. Parlons un peu de vous, parce que ce travail qui, j'imagine, est très prenant, surtout qu'on sent quand même bien que c'est aussi de la passion chez vous. Est-ce que ça laisse place à la vie privée? Est-ce que vous avez le temps d'avoir une vie sociale, par exemple? Je sais que vous êtes administrateur de la Société des études du Lot, donc vous êtes quand même un peu toujours avec un pied dans ce Lot.
Ah oui, oui, pour moi c'est capital. C'est capital. J'ai été, pas très longtemps, membre du conseil scientifique du parc naturel du COS. Donc pour moi, et ma présence à la Société des études du Lot, ça fait une trentaine d'années. Hein. Et pour moi, c'est un lieu d'échange, de rencontre. C'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, nous organisons un colloque à la fin de l'année sur les 150 ans de la Société des études. Et qui va être tout à fait passionnant avec de très nombreux intervenants. Je parlerai évidemment d'archéologie pour ma part, c'est normal. Mais là, je vous recommande, ça va être passionnant.
Écoutez, peut-être que nous y ferons une visite si vous nous rappelez cette date en temps utile. Vous avez des loisirs. Alors, je sais que vous êtes passionné par la brocante. Alors, pour qu'un archéologue, c'est presque naturel, non?
C'est pas très original, c'est vrai. C'est pas du tout original. Mais c'est vrai que j'adore la brocante. En fait, la brocante et tout ce qui touche au patrimoine du Lot. En fait, je recherche des vieux objets, je recherche des poteries.
Des briques, vous avez une collection impressionnante de briques que vous m'aviez montré un jour.
Absolument, j'ai une magnifique collection de plusieurs milliers de briques estampillées qui comportent donc l'estampille du fabricant. Et justement, je prépare avec un ami très, très cher, je prépare un bouquin qui va sortir début 2023, je pense, sur l'étuvier briquetier du Lot. Lui, il a déjà fait un gros travail sur le nord du département et on complète sur le reste du département. Donc justement, je lance un appel au peuple, si vous avez des briques estampillées sur la cheminée, pensez à moi. Et c'est mon intérêt dans la brocante, c'est tout ce qui concerne le Lot. Je recherche par exemple les bouteilles anciennes du département. Il y avait des bouteilles d'eau minérale, les bouteilles d'eau gazeuse, il y avait des tas de choses qui malheureusement ne sont pas conservés, ne sont pas présentés dans un musée. Et donc là, mon souci, voilà, c'est de heureusement il y a le musée de Cusal, mais qui n'est pas extensible. Et mon rêve serait d'avoir un musée où on présente nos arts d'art et tradition populaire. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans la brocante.
Ça va être bon pour la retraite, je sens.
Oh oui, je crois. Oui, je vais lancer à fond dedans. Je crois que l'archéologie, j'en ferai plus la retraite.
Vous m'avez parlé d'un film qui vous avait marqué, qui est Le Seigneur des Anneaux. C'est le film qui vous a...
Le bouquin, le livre et le film. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'après avoir lu la trilogie, et en sachant que de nombreux réalisateurs s'étaient essayés à la réalisation, tous avaient échoué parce que c'était tellement grandiose, tellement énorme, et finalement ça marchait et tout le monde j'avais parlé avec des amis également qui adorent Le Seigneur des Anneaux, tout le monde s'était fait une image des différents personnages, des hobbits, des elfes, des orques, tout ça, des paysages aussi, parce qu'il y a aussi ces différentes contrées, et tout le monde a retrouvé ce qu'il avait imaginé dans le film. Ça, c'est absolument extraordinaire.
Tout le monde a tourné en Nouvelle-Zélande, donc beaucoup. Vous n'avez pas fouillé la Nouvelle-Zélande.
Pas Nouvelle-Zélande, non. Mais c'est vraiment, c'est absolument extraordinaire. C'est une l'œuvre de Tolkien est époustouflante. D'ailleurs, il y a une expo à Cahors en ce moment au fond ancien de la Maison des œuvres, à laquelle la reine de Danemark a contribué. Elle a fait elle-même des œuvres sur la demande de Tolkien. Et c'est, pour moi, c'est magique. Hein,
mais... Qui est le père de tous ces ouvrages de fantasy qu'on lit aujourd'hui. Hein. Ouais. Il a absolument influencé tout le monde. Ouais. Pardon. Alors, un moment particulier qui vous a marqué, on se doute que chez les archéologues, il doit y avoir des moments où on est pris par ce que l'on pense qu'on va découvrir. Et quand on le découvre, ce doit être absolument saisissant. Quel a été le vôtre ? La découverte de la cella du temple de l'hôpital de Cahors, peut-être.
Oui, Oui, ça peut être ça. Oui, c'est probablement ça. Et là, l'histoire, elle est extraordinaire parce que j'avais réalisé un diagnostic lors du projet d'agrandissement de la maison du pôle mère-enfant de l'hôpital de la maternité de Cahors. Donc, ça se trouvait un emplacement des deux pavillons qui appartenaient au directeur et au comptable de l'hôpital. Et là, la DRAC nous a demandé de faire un diagnostic. Donc, j'ai fait des sondages et j'ai fait un sondage à appel mécanique où j'ai trouvé le terrain naturel à 3 mètres de profondeur. Donc, ça veut dire qu'on avait 3 mètres d'accumulation de terre noire.
Vous avez déjà employé ce terme de terrain naturel.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le substrat géologique. C'est le terrain qui n'a jamais été au contact de l'homme, en fait. Et là, c'est là que s'arrête l'archéologue. Quand on trouve le terrain naturel, l'homme s'arrête là et l'archéologue aussi. Et à cet endroit-là, donc, j'avais fait un sondage où il y avait 3 mètres de terre végétale, très fine, mais c'était vraiment de la terre, c'était hérité des hortes, de cette partie de Cahors qui était transformée en culture depuis la fin de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Et puis le terrain naturel, il n'y avait rien. Alors heureusement, aux alentours, j'avais fait d'autres sondages où des vestiges avaient été identifiés. Donc, du coup, il y avait suffisamment d'éléments pour lancer une fouille. Heureusement. Quand j'ai repris la fouille, 2 ans ou 3 ans plus tard, là, nous avons ouvert en grand, nous avons terrassé, nous avons d'abord retiré les terrains superficiels perturbés par l'homme récemment, et ensuite, on descend couche par couche. Et là, je retrouve mon sondage et je me rends compte que je suis au milieu de la cella du temple de l'hôpital.
Alors, la cella, qu'est-ce que c'est?
Alors, la cella, c'est le saint des saints du temple païen. C'est l'équivalent de la tour de Vaisseaune à Périgueux, pour ceux qui ont eu la chance de le voir. En fait, ce sont deux cercles imbriqués, mais ça peut être deux carrés, ça peut avoir plein de formes différentes. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la cella, c'est le centre, c'est un lieu où se trouve l'image de la
divinité, le cœur.
Voilà, voilà. Et puis, on a un mur périphérique qui insère la cella et qui va permettre l'accès du public et qui va procéder à un rituel de dévotion, exactement comme dans une église de pèlerinage où vous allez pouvoir utiliser l'ambulatoire pour contenir le cœur, vénérer les reliques des saints sans déranger la célébration du culte. Et là, j'ai retrouvé l'empreinte de mon sondage qui se trouvait au milieu du temple. Là, je n'avais pas fait de bêtises. Hein. Il n'y avait rien à voir. Je n'avais rien vu, mais il n'y avait rien à voir. Et ensuite, on se rend compte qu'on est au milieu du temple. Alors là, ça m'a fait un choc. Hein. Et du coup, si c'était nécessaire, ça montre à quel point, quand on fait des sondages négatifs, parfois sur l'autoroute A20, j'ai fait des kilomètres de sondage sans rien voir. Mais ça veut dire que très souvent, très certainement, moi et mes collègues, on était juste à côté de quelque chose de super important.
C'est le principe du carottage. Hein,
voilà, c'est le principe.
L'heure avance très vite, il est temps de passer à notre dernière rubrique, c'est celle de la séquence littéraire. Alors, vous m'avez cité l'histoire générale de la province de Quercy, de M. Lacoste. Pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez fait ce choix et qu'est-ce que contient ce livre?
Alors, pour un historien de Quercy, Guillaume Lacoste, c'est la Bible. Voilà, c'est le petit livre rouge, la Bible, c'est tout ce que vous voulez. Il était proviseur au Collège de Gambetta et il a écrit ce travail remarquable, 4 volumes, qui a été édité après sa mort par deux bibliothécaires de la ville de Cahors. Et il a fait un état des lieux absolument incomparable sur l'état des connaissances que l'on avait à la fin du 19e sur le Quercy. Quercy, l'autre plus nord du Tarn-et-Garonne. On va de la préhistoire la plus ancienne jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors évidemment, il y a des lacunes, évidemment, bien sûr. L'archéologie a été extrêmement balbutiante, donc tout ce qui était en élévation, l'aqueduc, il a cité, la pierre Martine, il a cité. Évidemment, il ne peut pas parler des fouilles qui ont eu lieu depuis lors sur des sites qui n'étaient pas connus à ce moment-là. Et le grand avantage qu'il a, c'est qu'au moins dans ses notes, dans ses papiers mêlés, c'est-à-dire le manuscrit qui a servi à la publication, il donne la plupart du temps les références. Pas toujours, mais ça montre aussi le sérieux du travail de l'historien, c'est que quand il raconte quelque chose, il donne les sources. Et ça, c'est capital, c'est extrêmement important. Et le travail de Guillaume Lacoste, pour l'archéologie en tout cas, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Là, ça a été une source, c'est le commencement de tout historien, de tout archéologue qui s'intéresse au département du Lot. Alors évidemment, depuis, on a renouvelé grandement, bien sûr, évidemment. Je vous citais l'exemple de l'autoroute où sur 100 km, on ne connaissait qu'un site. Finalement, on en a 100. Vous imaginez l'état des connaissances, quoi. Il a explosé, évidemment. Mais Guillaume Lacoste, là, vraiment, c'est un... Je me souviens aussi que j'avais acheté ces 4 livres à une époque où j'avais beaucoup de sous, j'avais fait un gros sacrifice et pour moi c'était important, c'était l'argent bien placé.
Donc, histoire générale de la province de Quercy par Guillaume Lacoste. Et moi je vais rester dans le passé pour mon choix de livre. Je vais vous parler d'un monsieur qui est né le 15 janvier 1622, vous me voyez venir peut-être, qui est la date anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, autrement dit Molière. Et Georges Forestier, qui est un universitaire de Sorbonne, vient de sortir une biographie qui s'intitule Molière. Hein, c'est un très gros livre, 542 pages. Georges Forestier a consacré la plus importante partie de sa carrière au théâtre classique. Il est notamment à l'origine de l'édition des œuvres complètes de Racine et de Molière à la bibliothèque de la Pléiade. Ces dernières années, il s'est attaqué à la vie de Molière, hein, cet illustre dramatique. Il a essayé de démêler le vrai du faux, l'anecdote du fait historique et le tout dans un cadre rigoureux parce que c'est un universitaire, c'est un chercheur. C'est un livre passionnant qui est très gros, hein, mais qui se dévore en quelques heures. Très franchement, moi, ça m'a passionné. Ça a été extrêmement vivant. Ça nous permet d'en apprendre beaucoup sur le siècle, sur la vie sociale, la troupe, la famille, l'œuvre de ce génie de la littérature, parce que c'en était un, de ce fabuleux acteur, parce qu'on oublie trop souvent qu'il portait véritablement ses pièces. C'était un très, très grand acteur. Et puis un homme aussi politiquement avisé, parce qu'à l'époque, alors c'est peut-être pareil maintenant, mais quand on fait de la culture, il fallait être bien en cours, et au sens premier du terme à l'époque, et il a su l'être. C'est un retour dans le passé qui est merveilleusement orchestré par Georges Forestier. On en ressort, enfin pour ma part, mais je pense que ce sera un avis assez unanime, on en ressort admiratif, et puis on a envie de relire les pièces et les ouvrages de Jean-Baptiste Poquelin. Didier Rigal, et nous sommes arrivés au bout de notre entretien, on aurait pu encore dire beaucoup de choses, mais la radio, je le dis souvent, c'est l'école de la frustration. Donc, je vous remercie de m'avoir reçu chez vous, de m'avoir consacré cette heure. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique et surtout au montage, Cheliane Amada. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres émissions sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.